simple fait de la justice de Dieu nous la reprend aussi. Au grand trône blanc. Et nous supplions, Gérard, jeune fille, jeune homme, monsieur, madame, nous supplions de ne jamais rencontrer cette sainteté, cette justice, lors du grand trône blanc. Aujourd'hui, nous l'avons chanté. Venez à Jésus, mais le temps passe. Le temps passe, on l'a chanté deux fois. On parle beaucoup du temps qui fait. Il fait chaud, il fait froid, il graine, mais ce qui compte, c'est le temps qui passe. Il y avait dans une ville une campagne pour le don du sang, et sur les murs, il y avait un slogan affiché partout. Le temps passe, qu'attendez-vous ? N'est-ce pas que c'est la bonne formule d'histoire ? Le temps passe, qu'attendez-vous ? Oh, s'il pouvait se faire que les centaines de personnes qui sont là n'aient pas besoin de cette bonne nouvelle garantie, parce qu'ils sont en règle avec Dieu, parce qu'ils ont été réconciliés avec Dieu, nous serions tellement heureux d'avoir parlé pour rien. Mais s'il n'y en a qu'un, comme on dit souvent, s'il n'y en a qu'une, et si sa conscience est atteinte, qui son cœur est renouvelé, eh bien c'est une bonne chose. Alors, nous avons la patience de Dieu dans la parabole du figuier et de la vigne, qui sont tous deux des plantes, qui sont le symbole du peuple d'Israël au travers des pages du livre que nous avons entre les mains. Il est clair dans cette parabole que le figuier est l'image du peuple en rapport avec le cadre étroit dans le temps du ministère du C'est Israël, c'est les Juifs dont le Seigneur s'est approché. Pendant 3 ans, il est venu et il n'y a rien eu pour lui. La vigne est certainement le peuple d'Israël dans un cadre plus vaste dans le temps. Et nous pensons au chapitre 5 d'Ésaïe. Nous pensons aussi au chapitre 24. Dans le chapitre 5 d'Ésaïe, c'est la vigne de l'Éternel. Il parle des soins dont il entourait cette vigne. Et puis voilà, quand il est venu, il n'y avait pas de bons raisins, il n'y avait que des raisins sauvages. De la même manière que le Seigneur vient auprès du figuier chaque année et il n'y a pas de figuier, il n'y a pas de fruit. Et puis, en Ésaïe 24, alors, c'est une vigne de vin pur. C'est l'état millénial, les relations sont renouées en grâce entre le peuple et l'Éternel, et il peut dire, l'Éternel, de peur que quelqu'un me la visite, j'en prendrai soin, nuit et jour. Voilà la vigne, et là c'est le figuier. Alors, le propriétaire du figuier dit « Oup, oup !» Il occupe une idée dans la terre. Le vigneron, celui qui a la charge de la vigne, mais qui est aussi une figure du Seigneur, c'est bien évident, dit « Attends, attends, il faut le déchausser, il faut y mettre du fumier, puis on va attendre. » Ce vigneron personnifie la patience de Dieu. Il y a les deux côtés qui ne sont pas antagonistes, qui sont complémentaires. Et vous voyez, chers frères, nous arrivons à un point capital pour notre vie de croyant et pour la vie des assemblées. D'un côté, il y a coupe. De l'autre côté, il y a attendons. Il y aura des soins à pratiquer. Il faut mettre les racines à l'air. Il faut oxygéner cette plante. Il faut déchausser. Et puis aussi, il y a la pensée qu'il faut aller à la source de ce qui ne va pas, la racine. Et puis, on va y mettre des éléments nutritifs. Ah, ce sont des soins qui ne sont pas commodes à faire. Il faut s'abaisser juste en terre. N'oublions pas que l'humiliation a sa source étymologique dans humus, la terre. Ainsi, en nous courbant jusqu'en terre, en déchaussant les racines, en mettant ce fumier, nous avons une pratique humble de soin à l'égard de cet arbre. Je répète. Il y a d'un côté la pensée du Seigneur, coupe. Il y a de l'autre côté la patience de Dieu avec les soins. Les deux viennent de Dieu. Les deux pensées viennent du Seigneur. Mais nous avons à les examiner. une décision prise avec précipitation, une décision d'assemblée, c'est de la prétention. Effectivement, une décision que l'on prend rapidement, bien souvent, c'est sans attendre que la conscience et le cœur de l'assemblée soient touchés. Il ne peut y avoir décision d'assemblée que dans la mesure où le cœur et la conscience de l'assemblée sont touchés. Ce n'est pas une question de proportion, ce n'est pas une question démocratique, ce n'est pas une question de vote, c'est une question de cœur et de conscience d'assemblée qui sont touchés. Supposons que sur ma main il y ait un mal important, un abcès, une tumeur, ce que vous voulez. Si mon organisme est en bon état de santé, il mobilise tous ses moyens de défense et il enlève ce mal par ses propres ressources. Il ôte le méchant. Ou bien alors, d'autres solutions. Le chirurgien se mobilise, il anesthésie le patient, et avec bistouri et scalpel, et ciseaux, ils enlèvent le mal. Et l'organisme ne s'est pas aperçu. Il n'a pas pris conscience de la chose. Ce n'est pas l'assemblée par son énergie spirituelle, comme dans le Corinthiens 5, qui a ôté le méchant. C'est l'équipe de chirurgiens qui, d'une manière un peu artificielle et sous anesthésie, a décidé de la chose, sans que le cœur et la conscience de l'assemblée soient touchés. Attention, chers amis. On ne peut pas prendre ces choses à la légère, sous prétexte qu'une décision va tout arranger. On pense qu'une décision remédie à une situation. On pense qu'en écartant tel ou tel, tout va aller mieux. L'homme raisonne ainsi. Dans un club, dans une société, dans ce monde, on enlève l'un ou l'autre parce qu'il gêne la marche du club. Et on pense que cet homme mis à la rue, eh bien, les choses vont aller beaucoup mieux dans le club. L'assemblée n'est pas un club. C'est un organisme vivant, composé de membres vivants. Et il faut qu'il y ait, au départ, toujours, cette prise de conscience par la situation du mal, par l'assemblée. Si on décide avant elle et pour elle, eh bien, en quelque sorte, on viole sa conscience. Alors, nous voilà en présence de cette demande du propriétaire du figuier, coupe. Oui, c'est vrai. Et il y a des situations où il faut se hâter, il y a urgence, c'est clair, et il y a à couper. D'un autre côté, chers amis, n'oublions pas ces soins pastoraux. Il faut des chaussures grasses. Il faut mettre du fumier. Et puis attendre, peut-être. Un an après, il n'y aura pas du fruit. Reprenons notre incrédule. Nous avons lu dans le Corinthiens 14 ce qui se passe quand cet incrédule arrive dans une réunion. C'est plus spécialement une réunion d'édification. Remarquons que, comme dans d'autres portions de la parole, Dieu nous présente les choses à sa manière et selon son ordre. Exemple, le tabernacle. Il commence par l'arche, il finit par le parvis. Les sacrifices, il commence par l'holocauste, il termine par le sacrifice pour le péché. Ici, il nous parle de l'assemblée corps de Christ dans les chapitres 10 à 14. Et au chapitre 10, il commence par la table du Seigneur et la scène du Seigneur. Et puis il continue et il termine par la réunion d'assemblée. La réunion d'assemblée est une manifestation extérieure de la vie de l'Assemblée. Et dans le fait de tout ce qui précède, depuis le chapitre 10, qui est fondamental parce qu'il s'agit de la table générale. Mais, pour nous, humains, nous commençons par le sacrifice pour le péché, nous arrivons à l'Holocauste, nous commençons par le parvis, nous arrivons à l'arche, et là, nous commençons par la réunion d'édification. Et nous allons arriver jusque à la table. Et l'incrédule est là, à l'aube de sa conversion. Il entre dans une réunion d'assemblée. Ah, plaise à Dieu qu'une réunion d'assemblée soit toujours telle, qu'elle ait de telles conséquences, qu'un homme incrédule ou simple, entrant là parmi nous, constate la présence de Dieu. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous.
La réunion d'assemblée découle de la vie d'assemblée. La vie d'assemblée, c'est 7 jours sur 7. Et il est désirable que chacun de ceux qui constituent l'assemblée, membres du corps de Christ, vivent leur place, leur fonction, comme nous l'avons dans le chapitre 12, pendant les 7 jours de la semaine, sans cesse. Il ne peut pas y avoir de réunion d'assemblée telle que nous l'avons ici, si chacun n'a pas fonctionné à sa place. Si nous avons laissé de côté bien des choses concernant l'assemblée. Pourquoi y a-t-il des fléchissements dans la réunion d'assemblée? Pourquoi y a-t-il des manquements? Pourquoi n'y a-t-il pas cette puissance? Pourquoi n'y a-t-il pas des âmes incrédules qui constatent que Dieu est véritablement parmi nous? Eh bien, à nous la faute. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons vécu le corps de Christ, nous avons vécu l'assemblée dans les jours qui précèdent? Ou bien est-ce que nous avons été distraits par tant de choses en disant, bon, ben, j'irai à la réunion, et puis ce sera comme d'habitude, elle parlera, on chantera des antiques, et puis tout ira bien, nous arriverons à la fin de la journée, et nous aurons eu des réunions d'assemblée, ou des réunions d'assemblée qui auront été à la hauteur de ce que nous aurons vécu dans les jours précédents. Notre responsabilité est impliquée. Et je dirais même que la responsabilité de ceux qui sont en communion, comme aussi de ceux qui ne sont pas en communion, parce qu'ils sont frères et sœurs, et au même titre que ceux qui sont en communion, ils sont des membres du corps de Christ. À partir du moment où l'incrédule est passé de la mort à la vie, à partir du moment justement où il a la vie, c'est l'élu du Saint-Esprit. Il est un membre du corps du Christ qui est l'assemblée. Et c'est un frère, c'est une sœur. Il peut être dans différents secteurs de la chrétienté. Nous avons de chers frères protestants, nous avons de chers frères catholiques, de chers frères pentecôtistes. Ils ont la vie, ils font partie de la famille de Dieu. Évidemment, ils ne réalisent pas ce que d'autres peuvent réaliser pratiquement dans le rassemblement de même, mais ce sont des frères, ils constituent l'assemblée. Et dans un rassemblement, il y a des frères et des sœurs qui sont en communion, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas en communion. Mais au même titre les uns que les autres, ils constituent l'assemblée. Et chacun a des responsabilités quant à la vie d'assemblée et quant aux réunions d'assemblée. Si bien même des frères et des sœurs ont la bouche fermée, c'est bien vrai, et bien quand même, leur situation morale, leur état spirituel va conditionner la réunion d'assemblée. Nous n'entrons pas dans les détails, mais nous comprenons bien que si quelqu'un, frère ou sœur, à une fille pendant la semaine, telle qui se désintéresse totalement de ce qu'est l'assemblée, de ce qu'est le corps de Christ, de ce qu'est sa fonction dans l'assemblée, eh bien, il y aura des répercussions évidentes dans la réunion d'assemblée. Alors, ce qui apparaît aux yeux de cet incrédule, c'est la présence de Dieu. Il a devant lui le témoignage de Dieu. Et il va passer au chapitre précédent. Le chapitre précédent, c'est le chapitre 13. C'est le chapitre qui nous donne les caractères de l'amour. Le corps de Christ avec les dons qui sont là à leur place, Dieu ayant placé les uns et les autres comme il l'a voulu, nous lirons quelques passages à ce sujet, et puis au chapitre 14, la réunion d'assemblée. Et ce qui relie la composition du corps à la réunion d'assemblée, c'est l'amour. Et derrière chaque caractère de l'amour, nous pourrions mettre Christ. L'amour use de longanimité, verset 4. Christ use de longanimité. Christ est plein de bonté. Christ n'est pas envieux. Christ ne se vante pas. Christ ne semble pas d'orgueil, etc. En quelque sorte, cet homme, qui est déjà un croyant, il regarde autour de lui et il voit des membres du corps de Christ, des frères et des sœurs, qui tous, entre guillemets, sont des petits Christ. Il y a cet amour qui les fait mouvoir. Il y a cet amour qui rayonne. Et il reçoit dans le chapitre 13, notre incrédule qui est maintenant un croyant, le témoignage de Christ. Dans l'assemblée, en bon état, dans l'assemblée vivant comme elle doit vivre, chaque membre qui la compose étant là à sa place, c'est l'amour qui est le témoignage que notre homme perçoit. Témoignage de Christ. Alors, une question se pose en passant, et c'est pas parce qu'on la pose en passant qu'elle n'est pas importante. Qu'en est-il
témoignage que nous rendons à propos de l'amour. Est-ce que quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui est entré, qui a constaté la présence de Dieu, et qui au bout de quelques jours, quelques semaines, nous voit vivre, peut dire « Ah oui, c'est vrai, voilà l'amour, de Christ. Je le vois dans ce frère, je le vois dans cette sœur. » Est-ce que c'est vrai? Oh, l'amour que nous avons à manifester, c'est pas de nous recevoir, de nous inviter à telle ou telle réception. Oui, ça peut être justement masquerait un amour vrai, un amour que nous avons perdu. L'amour vrai, c'est autre chose, c'est Christ lui-même, Christ vivant en nous. Un Christ vivant, un Christ vécu. Alors, qu'en est-il? Question que nous posons pas ça. Qu'en est-il de chacun? Chapitre 12, cet incrédule qui est un croyant, répétons-le, constate ce qui en est du corps de Christ, que Dieu a placé les membres, verset 18, comme il l'a voulu. Verset 24, que Dieu a composé le corps. Verset 28, que Dieu a placé les uns dans l'assemblée, etc. Et nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Voilà cet individu qui constate ce qu'est le corps de Christ d'une manière pratique. Et il constate ce qu'est l'action de l'esprit dans l'assemblée et dans chacun de ceux qui composent l'assemblée. Il reçoit le témoignage de l'esprit. Témoignage de Dieu au chapitre 14, témoignage de Christ au chapitre 13, témoignage de l'esprit au chapitre 12. Témoignage perçu de manière vivante, concrète, pratique au niveau de chacun de ceux qui composent l'assemblée. Voilà le témoignage. Il y a peut-être eu des paroles, certainement, mais ce qui compte surtout, c'est l'attitude, la position et ce qui est perçu par cet homme. Alors, il va s'apercevoir que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il constate, a comme fondement la mort de Christ. Et nous arrivons au chapitre 11 avec lui. Et il désire se souvenir de la mort de Christ. Il désire annoncer la mort de Christ. Il y a ce qui doit le caractériser lui, cet homme, ce jugement de lui-même, afin qu'il puisse prendre la scène comme il convient. Et nous devons, au verset 28, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. S'éprouver soi-même ne peut pas conduire quelqu'un à ne pas prendre la scène. Quelqu'un a dit récemment, on ne doit pas faire de la scène un enjeu. On ne peut pas faire avec la scène ce qu'on veut, en quelque sorte, en fonction de ce CEX qui nous entoure. Prendre la scène est un acte qui engage dans le chapitre 11 notre propre conscience, notre jugement de nous-mêmes, et qui en aucun cas ne doit nous écarter de la scène. Répétons bien que chacun s'éprouve de soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Le jugement de nous-mêmes ne doit pas nous amener à nous écarter de la scène, à ne pas prendre la scène. On ne joue pas avec la scène. Excusez cette expression familière, mais on penserait quelquefois de nos jours, on penserait volontiers. On ne donne pas. Il y a l'exercice de conscience, il y a le jugement de nous-mêmes, et cela doit toujours nous amener à prendre la scène. Parce que c'est un acte sérieux et solennel. Nous annonçons la mort du Seigneur. Nous ne le faisons pas à la légère. Nous nous jugeons nous-mêmes, on revient bien là-dessus. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur, mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. Ils sont très importants ces deux versets, 27 et 28. Ça doit être une règle de conduite pour chacun de nous quant à la scène. Cet homme a fait des progrès et maintenant il devient intelligent pour saisir ce qu'est le fondement. Le fondement du rassemblement. Ce autour de quoi s'organise, dans le sens de se bâtir, le témoignage. Le témoignage de ce qu'est l'assemblée corps de Christ. Témoignage de Dieu, témoignage de Christ,
témoignage de l'esprit, et maintenant dans un Corinthiens 10, témoignage de ce qu'est le corps de Christ assemblé. Je parle des personnes intelligentes, verset 15 d'un Corinthiens 10. Telle intelligence. Une intelligence intellectuelle. Je connais une jeune fille qui avait toutes les facultés nécessaires pour comprendre. Pour comprendre ce qui est dans le Corinthiens 10 et un Corinthiens 11. Elle ne demandait pas sa place. Et quand elle l'a demandé à un âge relativement avancé, peut-être 27 ou 28 ans, elle a dit, je comprenais, mais ce n'était pas par le cœur. Des personnes intelligentes par le cœur. Voilà ce qu'il y en est. Or, ce qui se passe à propos de la table du Seigneur et de la scène du Seigneur, c'est qu'on fait intervenir nos raisonnements, notre logique, tout ce qui est notre propre intelligence. Et nous en arrivons à dire, revenons encore, chers amis, excusez-moi de faire appel à Malachie, dans Malachie 2, dans Malachie 1, verset 12, vous dites, la table du Seigneur est souillée, et ce qu'elle fournit, sa nourriture, est méprisable, et vous dites, voilà quel ennui, et vous soufflez dessus. Sommes-nous pas arrivés à une époque où nous soufflons sur la table du Seigneur? Où on dit, vous parlez de la table du Seigneur, et il n'en est question qu'une fois dans la parole, dans Corinthiens 10. Je regrette qu'il en ait question aussi dans Malachie. Ça fait deux fois. Et deux fois dans Malachie, ça fait trois fois. Et tout ce qui a été dit, et on dit même raconté, à propos de la table du Seigneur, tout cela, c'est méprisable. On souffle dessus. Et le mal profond dont nous souffrons, dont les rassemblements souffrent, ce n'est pas quelques épisodes concernant quelques assemblées. Mais c'est le raisonnement que nous tenons avec la table du Seigneur et avec la scène du Seigneur. Là est le mal profond. Il y a peut-être 50 ans, il y avait des personnes qui étaient à la table du Seigneur qui ne saisissaient peut-être pas tout, tout ce qu'il y a en rapport avec le témoignage qui est rendu là. Mais au moins, semble-t-il du moins, elles ne raisonnaient pas. Elle ne discutait pas, elle ne remettait pas tout en question. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? On remet tout en question. On souffle. C'est de la poussière qui est sur la table du Seigneur. C'est rien du tout. Vous en avez rajouté. C'est la doctrine des frères, et que sais-je. Alors, pensez-vous que le Seigneur soit satisfait de cette situation? Pensez-vous qu'il puisse tolérer que parmi les X milliers de personnes qui sont assemblés au nom du Seigneur, qui sont là autour de la table du Seigneur, et il y en a un certain nombre, lui le connaît, lui sait ce nombre, lui connaît les reins et les cœurs, pensez-vous qu'il puisse tolérer qu'il y ait de ses frères et sœurs, c'est toujours des frères et sœurs en communion, et qui discutent avec la table du Seigneur, et qui remettent tout en question. Pensez-vous qu'il soit satisfait? Pensez-vous que ça lui plaise? Pensez-vous qu'il soit glorifié en cela? Alors, va-t-il nous laisser faire? Je crois qu'on peut penser encore à Malachie, au chapitre 3, quand nous voyons l'affineur qui s'occupe des fils de Lévi. Il veut les affiner et les purifier. Et il s'assied. Et là encore, nous retrouvons la patience de Dieu, la patience du Seigneur. Parce qu'il y a deux choses dans cette image de Malachie 3. Il y a d'une part le feu, et d'autre part il y a l'affineur. Et l'affineur ne peut pas laisser agir le feu de par lui-même. Il contrôle, il surveille. C'est sa patience, il prend son temps, il s'assied. On sait, pour la plupart, certainement, comment se passe cette opération d'affinage. Il faut que l'affineur surveille la surface du métal. Il faut qu'il arrête la fusion au moment où l'éclat de la surface, comme un miroir, reflète sa propre image. Et ne croyez-vous pas que c'est ce que le Seigneur fait? Il fait monter le feu, et puis quand il verra que dans ce qu'il affine et qu'il veut purifier, ayant ôté les scories, il retrouve sa propre image dans les yeux. Pensez-vous pas que c'est là l'application de ce que nous avons dans Jean 17? Je suis glorifié en eux. Le reflet de sa propre image. Mais il faut qu'il s'assienne, il faut qu'il prenne son temps. Et c'est ainsi qu'il nous fait passer
par le creuset, pour notre profit, mais avant tout pour sa joie et pour sa joie. Alors cet homme constate avec intelligence et intelligence de cœur ce que c'est que la table du Seigneur. Il y voit que là, c'est le seul endroit où collectivement on confesse et on reconnaisse l'autorité du Seigneur. Celui que Dieu, l'ayant fait asseoir à sa droite, l'ayant ressuscité, l'ayant fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, a donné comme chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chaque croyant, dans sa propre vie, peut reconnaître pour son propre compte les droits du Seigneur et son autorité, c'est vrai. Mais où, collectivement, peut-on proclamer ses droits et son autorité? Ce n'est qu'à la table du Seigneur. Cette table n'est la propriété d'aucune collectivité, d'aucun secteur de la chrétienté. Et surtout, gardons-nous de nous l'approprier. C'est la sienne. Elle s'appelle la table du Seigneur. C'est la scène du Seigneur parce que c'est sa table et parce que c'est son souper. C'est son pain. Il y a là la reconnaissance de ses droits et de son autorité. En même temps, chers amis, il y a le fait que nous proclamons que nous sommes un seul pain, un seul corps, nous sommes plusieurs, mais nous proclamons là autre chose concernant l'assemblée corps de Christ. C'est une vérité qui ne peut se proclamer de manière tangible et pratique qu'à la table du Seigneur avec ce pain que nous prenons, que nous rompons et que nous mangeons. Et puis, forcément, puisque c'est la table du Seigneur et que c'est un acte collectif qui implique tout le corps, nous disons que nous sommes là comme étant l'expression du corps tout entier, puisque ça implique tout le corps, puisque ça implique l'assemblée dans son ensemble, forcément, l'autorité confiée par le Seigneur à l'Assemblée et la discipline qu'elle a exercée vont se manifester. Cela est incontournable. À la table du Seigneur, nous ne sommes pas à la table du Père. Cette pensée de table du Père a été exprimée par notre frère Darby en 1901, dans un article que nous pourrons trouver. Et c'est une table que nous confondons peut-être dans nos pensées, sans en avoir bien conscience, avec la table du Seigneur. La table du Père, qu'est-ce que ça serait? Ça serait une table où tout enfant a sa place. Où là, nous sommes réunis sous le regard du Père, comme étant sa famille. La table du Seigneur, c'est pas ça. Nous sommes là comme, non seulement des rachetés, c'est vrai que nous sommes des enfants, mais nous sommes là surtout pour exprimer ce qu'est le corps de Christ, l'Assemblée. C'est pas la famille de Dieu, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui apparaissent au premier plan. Alors à la table du Père, qui a l'autorité? Qui a la première place? C'est le Père. Et il n'y a pas d'autre autorité que celle-là. Il n'y a pas d'autorité déléguée comme il en est question pour la table du Seigneur, où l'Assemblée a géré cette autorité et la discipline qu'elle a manifestée. Donc, il est bien vrai que s'il y avait la table du Père, tous les enfants de Dieu sont là, y ont leur place, seul le Père accepte, seul le Père peut rejeter. Ce n'est pas cela la table du Seigneur. Nous y reconnaissons l'autorité. Seigneur, nous l'avons dit, et cette autorité, l'Assemblée la gère, et elle ne peut tolérer que nous nous associons à cette table du Seigneur avec des croyants qui se rassembleraient sur un autre terrain. C'est pas qu'ils soient dans le mal doctrinal ou le mal moral, cela peut être, mais c'est surtout qu'ils se rassemblent différemment. Nous allons terminer pour faire remarquer qu'il y a que deux manières pour les croyants d'être assemblés. Ou bien effectivement, ils sont assemblés par le Seigneur. C'est Matthieu 18, verset 1. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. C'est la puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit Saint qui assemble. C'est un assemblage, qu'on pourrait considérer comme passif, non volontaire. C'est le Seigneur qui est le centre, le fondement, le chef. C'est lui qui est tout. Et la base de ce rassemblement, la personne même de Christ, l'unité portée. L'autre manière, c'est de se rassembler volontairement. Et cette expression « rassemblement volontaire », nous le trouvons dans les écrits du 19e siècle. Ce n'est pas une nouvelle expression que nous envoyons, mais c'est une expression que nous avons dans les écrits du siècle précédent. Rassemblement volontaire, comment? Eh bien voilà, nous sommes une dizaine de croyants.
croyants, nous sommes d'accord sur un certain nombre de points, de manières de faire, sur des interdictions, sur des obligations. En fait, nous écrivons un catalogue ou un credo, comme le voulez, nous signons, et voilà ce catalogue ou ce credo qui sont la base, le fondement de notre rassemblement. On peut bien dire que le Seigneur est le chef du corps de l'Assemblée, on peut bien dans ce rassemblement parler de l'unité du corps de Christ, mais en fait, ce qui est pratiquement la base de ce rassemblement volontaire, c'est une communion de pensées de croyants qui se sont déclarés sur un catalogue ou sur un credo. Il peut y avoir d'autres motifs de rassemblement volontaire. Ça peut être une doctrine, ça peut être un ministre, un frère, dont la personnalité rassemble autour de lui un certain nombre de croyants. Eh bien, chez ces croyants, si on cherche un peu ce qui est à l'origine de leur rassemblement, on s'apercevra que c'est un rassemblement humain. C'est un rassemblement à base humaine. C'est un rassemblement volontaire. Alors, comment associer tel croyant avec ceux qui sont assemblés par Jésus sur la base de l'unité du corps de Christ autour de la table du Seigneur? C'est pas droit. Alors, ce n'est pas droit. C'est pas clair. Bien sûr, c'est des chers enfants de Dieu, évidemment, mais on ne peut pas quand même déclarer avec eux que nous sommes assemblés sur la base de l'unité du corps de Christ. Ça serait faux. Ça serait peut-être bien gentil, bien sûr. Mais méfions-nous de tout ce qui est gentil et brave. C'est la base, l'origine de tout un ensemble de relâchements. Et peut-être que ça nous ferait plaisir. Ben, ça nous ferait bien plaisir aussi de dire à cet incrédule qu'il n'y aura pas le grand trône blanc. Mais Dieu dit autre chose. Et il faut bien aller avec ce que Dieu nous dit, il faut bien l'écouter, il faut bien obéir. Ou alors, nous sommes sur un terrain humain. Un jour, un jeune frère, me téléphone en me disant, voilà, je suis en Angleterre, j'ai trouvé des croyants qui se rassemblent comme nous. Quelle horreur, comme nous. Selon la parole, oui, mais comme nous. Qu'est-ce que c'est? Méfions-nous de cette première personne de rien. Il n'y a rien de plus sectarisant que de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes de croyants qui se connaissent bien, qui vivent entre eux, etc. Non, ce sont des saints assemblés au nom du Seigneur. Alors bref, je ne fais pas toute cette éducation au téléphone, et je dis, bon, ben va, puis tu vas bien voir. Quel jour après, il me téléphone. Il me dit, ben, écoute, est-ce que tu aurais quelque chose sur l'assurance du salut? Parce que chez ces croyants, ben, ils disent que le salut, on peut le perdre. Ah, et tu vois, tu as fait des expériences. En apparence, le rassemblement était pareil, mais ben, c'est pas pareil, parce qu'ils nient l'assurance du salut. Alors, après, on s'est expliqué, on a parlé, on s'est retrouvé après au téléphone, 48 heures après, et ce jeune frère a fait une expérience bénéfique, dans le fond, parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qui est apparence camoufle bien souvent des erreurs fondamentales. Et si on constate qu'il y a des erreurs, on comprend bien qu'on ne peut pas annoncer l'unité du corps de Christ à la table du Seigneur avec une telle personne, de chers croyants, de chers frères et de chers sœurs, Seigneur. Alors, l'incrédule a fait tout ce chemin. C'est une belle progression. Depuis le moment où il a constaté la présence de Dieu, il a été amené au témoignage de Christ dans cet amour qui se manifeste à travers les uns et les autres. Et encore, je pose cette question, est-ce que nous manifestons ces caractères au point de toucher une âme. Et puis il a fait le témoignage de l'esprit, dans la vie du corps, dans la vie de l'assemblée. Et puis, il a été amené à annoncer la mort du Seigneur, la mort de Jésus, la mort de lui. Et puis le voilà rendu intelligent, d'une intelligence de cœur, avec une conscience exercée, pour réaliser tout ce qu'on peut réaliser à la table du Seigneur, en prenant la scène du Seigneur. Et bien dans ce cheminement, nous voyons en fait partout la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu pour pousser cette âme à l'importance, s'il n'y avait pas tout ce travail dans une âme, il ne serait pas arrivé jusqu'à ce point de l'incorindianisme, qui est le point le plus élevé et le point le plus fondamental, le point de départ pour ce qui concerne la vie de l'Assemblée corps de Christ sur la terre.